La tête dans le flux. Chaque mois, explorez les pratiques numériques avec l'association Ping.
Bonjour Thomas.
Bonjour Alexandra. Donc tout en douceur, c'est interroger cette notion de progrès. Alors aujourd'hui, nous sommes en 2017 et on peut poser quelques constats plutôt, on va dire, noirs quand même, d'une certaine noirceur. Le climat se réchauffe, l'air est parfois irrespirable, il y a quelques tensions sociales, l'accumulation de déchets, l'eau douce se raréfie, la biodiversité décline. Mais tout ça n'est pas grave car il y a le progrès. Alors, qu'est-ce que c'est que ce progrès dont on parle régulièrement et qui nous sauve à peu près de tous les maux? Alors le progrès, l'innovation, on entend à toutes les sauces. Mais de quoi s'agit-il en fait? C'est quoi au juste le progrès dont on parle depuis à peu près 2 siècles, depuis le début de la révolution industrielle, même un peu plus? Alors, on n'arrête pas le progrès, on connaît bien l'expression, hein, mais de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on n'arrête pas? Alors, pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que, bien évidemment, Ping travaille sur le numérique, les technologies de l'information et de la communication, comme on dit. Et donc forcément, il y a aussi cette notion de progrès qui transparaît à travers ça, des progrès technologiques, techniques, des innovations. Mais de quoi parle-t-on au juste quand on parle de progrès technique? Est-ce que aujourd'hui, par exemple, quand on parle d'un frigo connecté qui peut vous envoyer un SMS pour vous signifier qu'il est bientôt vide à 32%, constitue-t-il un progrès? Est-ce qu'un smartphone qui possède de nouvelles options qui seront désuètes dans 6 mois et qui finira sûrement dans une décharge à ciel ouvert au Ghana, constitue-t-il un progrès? Ou encore, bon, un réseau social dans lequel il est possible d'annoncer que l'on va se suicider à ses 1082 amis et que personne ne réagit, constitue-t-il un progrès? Fait avéré hein, de Simone Bach en Noël 2010, qui avait marqué un petit peu les esprits. Alors c'est forcément une question qui se présente à un moment donné. Forcément, quand on est la tête dans le flux, comme on peut dire, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce progrès dont on parle? Mais attention, parce que vouloir interroger cette notion de progrès, c'est tenter de remettre en question, c'est un petit peu tabou. On va de suite vous demander si vous voulez retourner la bougie, c'est généralement la première des réactions qu'on peut avoir. Alors, ici, dans ce cadre-là, je vais tenter d'explorer un petit peu ce qui se cache derrière cette notion de progrès. Donc, on va y aller, c'est pour ça en douceur, on va y aller tranquillement, on ne va pas brusquer. Et tout d'abord, j'ai commencé par une lecture. Voilà, je m'appuie sur des gens qui réfléchissent et qui en font leur activité principale. Et tout d'abord, en compagnie d'un monsieur qui s'appelle Jacques Bouveresse, qui est philosophe, qui est un philosophe français, spécialiste de, alors, je ne sais pas si je le prononce bien, Wittgenstein, pas évident à dire, Robert Musil et Karl Kraus. Donc, Jacques Bouveresse, qui est professeur honoraire au Collège de France et qui s'inscrit dans le rationalisme des Lumières, donc quelqu'un qui est de prime abord quand même fortement assis et installé dans ce qu'on peut appeler ces notions de progrès qui nous suivent depuis les Lumières quand même. Donc il est intéressant de voir ce qu'il pouvait raconter dans un petit opuscule qui est sorti ce mois-ci dans la collection 100 000 signes aux éditions Agone. Voilà, c'est un livre qui s'intitule « Le mythe moderne du progrès, décortiqué et démonté par le philosophe Jacques Bouveresse à partir des critiques de Karl Kraus, Robert Musil, George Orwell, Ludwig Wittgenstein, pardon pour la prononciation, et Georges Henrik von Wright. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Donc, ça commence fort parce qu'il y a l'éditeur qui a inscrit une petite note en introduction et qui dit « La religion du progrès a remplacé toutes les autres, y compris comme opium du peuple, ne dissimule plus seulement un rapport de domination politique, sociale et économique, mais a troqué la survie de l'humanité contre l'amélioration sans limite des conditions de vie matérielle de quelques-uns. » Donc on commence vraiment très très fortement. Derrière ça, donc, c'est autour de Jacques Bouveresse d'expliquer un petit peu son point de vue. Alors il commence par analyser un petit peu la pensée de Kraus, pour qui le progrès serait un processus qui s'auto-entretient. C'est-à-dire qu'à chaque problème qu'on rencontre, qui est généré par un progrès, un nouveau progrès pourra arriver pour surmonter ce problème et ainsi de suite. Donc, en quelque sorte, pour Kraus, les moyens ont pris un peu le pas sur la fin, ce qui justifie en permanence. À mesure, donc je le cite, à mesure que les moyens devenaient de plus en plus démesurés, les fins sont devenues de plus en plus indéfinies et impossibles à percevoir. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut parfois tous un peu ressentir. Alors, un petit extrait. Voilà. Même si on ne sait pas, donc là c'est Krauss qui parle, même si on ne sait pas ce qu'est le progrès, tout le monde est plus que jamais tenu de croire qu'une chose au moins est sûre, à savoir que nous progressons, que nous pouvons le faire de façon illimitée et que l'obligation de continuer à le faire est une sorte d'impératif catégorique pour les sociétés contemporaines. Pour Krauss, donc, le progrès peut aussi parfaitement mettre en danger, pour finir, la vie elle-même, directement. Alors après, Bouvray s'appuie sur la pensée de Wittgenstein, dont il est un des, on va dire, un des héritiers en France. Alors ce dernier milite pour une forme d'humilité et un respect devant les phénomènes de la nature. Voilà, c'est à peu près ce que j'en ai retiré. Bon, c'est une proposition tout à fait louable, mais un peu timide, je trouve, pour le philosophe favori de Bouvresse, qui enchaîne à la suite de ça sur Ernest Renan, qui n'était pas vraiment cité dans les philosophes sur lesquels l'ouvrage s'appuie, mais qui annonce que nous sommes tous entraînés par les forces du progrès, mais peu en sont conscients. Alors, un petit clin d'œil, justement, par rapport au retour à la bougie dont généralement on nous affuble quand on soulève cette question-là. C'est un échange entre Wittgenstein et Farrington, qui est un universitaire et militant socialiste. Farrington interpelle Wittgenstein et lui dit « Mais avec tous les aspects laids de notre civilisation, je suis sûr que je préférerais vivre comme nous le faisons à présent plutôt que d'avoir à vivre comme le faisait l'homme des cavernes. » Et Wittgenstein de lui répondre « Oui, bien sûr, c'est ce que vous préféreriez, mais est-ce que c'est ce que préférerait l'homme des cavernes ?» Bon. Voilà pour la petite joute verbale. Bouvresse tente de rassurer quand même, vers la fin de son petit ouvrage, le lecteur, en affirmant que ce n'est pas vraiment le progrès qu'il faut critiquer, mais plutôt l'idée qu'on s'en fait. Il faut donc plutôt défendre l'idée de progrès. Il dit « Le progrès peut avoir besoin d'être défendu aussi, et peut-être en priorité contre certains de ses amis actuels. » C'est-à-dire qu'à première vue, on aurait un mauvais usage de la notion de progrès.
C'est un peu comme la laïcité. C'est dévoyé, qui fait partie des sujets qu'on évoque régulièrement.
Est-ce que c'est une forme rhétorique ou est-ce que c'est... Voilà, en tout cas, c'est comme ça qu'il défend, lui en tout cas, cette position-là. Enfin, avant de conclure, Bouvresse en appelle à nouveau à son auteur, enfin son philosophe favori, et à Nietzsche également, pour dire que le progrès pour soigner les maux guérissables, oui, c'est-à-dire, évidemment, on pense à la médecine, ainsi de suite, donc les progrès pour pallier au tragique de l'existence, c'est comme ça qu'il le dit, non. Alors là, évidemment, c'est pas dit, mais je pensais de suite un petit pied de nez au projet transhumaniste, puisque finalement, voilà, lutter contre la mort, lutter contre la vieillesse, voilà, c'était un peu, j'ai l'impression, pour prendre position par rapport à ce projet-là. Et pour terminer, alors que vers la fin, la toute fin du livre, on commence à aborder la question des limites du progrès, qui paraît être une question quand même fondamentale, Bouvresse coupe net deux lignes avant la fin du livre et dit « Cet aspect de l'illusion soulève des problèmes particuliers et mériterait évidemment une discussion approfondie que je préfère réserver pour une autre occasion. » Alors ça, c'est quand même très fort de café. Voilà qui laisse encore planer bien des mystères sur ce fameux progrès et qui fait douter aussi un petit peu de la pertinence de la collection 100 000 signes, pourtant qui avait été quand même, moi je trouvais, assez bien exploité par précédent ouvrage de Célia Izoard sur des témoignages sur les usines à Foxconn en Chine, le format était tout à fait correct. Là, j'ai l'impression qu'on l'a coupé dans son élan. Voilà.
Donc, tu as un regard assez critique sur cet ouvrage.
Oui, c'est un peu décevant parce qu'on cherche évidemment à trouver des réponses un peu plus claires, ou en tout cas une démarche intellectuelle un peu, nouvelle ou renouvelée.
Il n'y a rien de très étonnant.
Et finalement, il se défausse un petit peu sur la fin, j'ai l'impression. Il n'y a pas vraiment de position un peu claire de sa part.
Peut-être qu'il prépare,
suite, le tome 2.
C'est ça, sa carrière pour venir. Il pose des jalons comme ça.
Une stratégie marketing, tout à fait, peut-être.
Et sur cette notion de progrès, d'interroger les liens entre progrès et technique, je crois que tu aurais d'autres lectures à recommander qui t'ont un peu plus marqué ou emballé que celle-ci.
Eh bien, il y a pas mal d'auteurs qui sont sur ces questions-là en ce moment. Je renvoie vers les éditions L'Échappée qui proposent pas mal d'auteurs sur ces questions, comme Éric Sadin. Et en parlant d'Éric Sadin, ce dernier a lancé la création d'un comité citoyen sur le numérique, justement alors je le cite, pour alors, les incessantes évolutions technologiques engagent bien trop profondément la forme de nos existences pour que ces enjeux à portée civilisationnelle soient laissés aux seules mains des industriels qui ne se soucient que de leurs propres intérêts ou des politiques qui font preuve d'une soumission coupable. C'est comme ça qu'il introduit sa proposition. Il y a un article dans Le Monde de hier, je crois, qui explique un petit peu, il y a une tribune pour lui, qui explique un petit peu sa démarche, et donc il invite celles et ceux qui sont intéressés à venir le rejoindre le vendredi 24 mars à la Bellevilloise, à 19h, pour lancer cette initiative un petit peu de regard citoyen sur ce progrès technologique actuel.
Ping va s'engager dans cette démarche ?
C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse pour l'instant. Je vais en parler avec les collègues. En tout cas, on ne sera pas sur place le 24 mars, mais ça nous intéresse de suivre ça de loin hein, ou de près même pour toujours conserver cette démarche d'éducation populaire à laquelle on tient.
Et c'est assez innovant, parce que là c'est un comité citoyen du numérique, il n'existe pas justement d'instance un peu qui coordonne les acteurs associatifs comme Ping, qui sont déjà très actifs
au niveau national.
Ouais.
Il y a différentes instances.
Il y a quand même la FING.
La FING, c'est un think tank. Elle ne coordonne pas forcément de réseau. Voilà. Et puis, leurs positions sont peut-être moins tranchées sur ces questions-là que ce que propose Eric Sadin.
Donc, j'imagine que tu nous reparleras par la suite, peut-être dans une autre chronique, et une fois que les choses auront un peu avancé sur le terrain de ce nouveau comité citoyen du numérique.
Voilà, et continuer d'explorer un peu cette question du progrès.